la bienveillance d'Eric, j'accueille la bienveillance de Dieu. Et c'est vrai pour moi, mais c'est aussi vrai pour nous tous. Ce matin, j'aimerais parler de ces dernières paroles que le Christ a exprimées. Vendredi passé, plusieurs étaient là, nous avons vécu notre culte de Vendredi Saint avec un parcours méditatif et j'ai apporté, ah oui, c'est aussi le moment pour les enfants, je le dis, je vois que des parents se lèvent avec les enfants. Excusez-nous, on ne vous l'a pas signalé suffisamment ce matin. Il y a donc des salles d'éco-dimanche qui vous attendent, les enfants, avec les parents. Que ce soit un bon temps pour les moniteurs, les enfants. Donc, vendredi dernier, j'ai parlé, en ce qui me concerne, sur Jésus, la victime expiatoire. J'ai souligné, et nous l'avons chanté, qu'il est l'agneau immolé. L'agneau pascal, l'agneau sans tache, pur, innocent, frêle, que l'on a conduit comme à la boucherie, à l'abattoir. Parce qu'il est innocent pour ses détracteurs, au point de vouloir absolument le mettre à mort. Ses ennemis voyant en lui un blasphémateur, un imposteur, un falsificateur et un menteur, osaient dire qu'il était le Fils de Dieu, par exemple. Jésus est resté fidèle à sa mission d'envoyer jusqu'au bout. À Golgotha, il est mort. Souvent, on le dit comme une phrase, mais on a prié pour que ça soit vraiment une révélation, comme tout à nouveau. Il est mort à ma place. Il est mort à notre place. Il a expié mon péché. Il a expié notre péché afin que nous soyons sauvés. Et nous avons demandé une nouvelle révélation de la croix. Je voulais faire le lien. Aujourd'hui, en ce dimanche 17 avril, nous avons mis l'accent vendredi sur « Il est sauveur ». Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur « Il est Seigneur ». Et nous poursuivons notre réflexion pascale. Et sur la portée de son affirmation, au moment d'agoniser, tout est accompli. Voyez-vous, il n'a pas attendu la résurrection pour le dire. Vous voyez, cela s'est accompli, j'avais raison. Il va le prononcer, il va l'affirmer avant même de rendre l'âme. Juste avant de rendre l'esprit, il dit, tout est accompli, car il savait ce qu'il attendait 3 jours plus tard. Le tout est accompli, prononcé avec une foi inébranlable par notre Sauveur Vendredi Saint, s'est accompli magistralement au moment de sa résurrection. Et nous avons eu tellement raison tout à l'heure de chanter de tout notre cœur « À toi la gloire » et nous l'avons même proclamé. Lisons maintenant Jean 19 et plusieurs versets que nous trouvons dans ce chapitre. Jésus portant sa croix sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Et c'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu d'eux. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit qu'il était le roi des Juifs. » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Et je ne reviens pas en arrière. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Les paroles de l'Écriture s'accomplissent, les prophéties se réalisent. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif !» Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli !» Retenez cela, juste avant, Jésus savait que tout était accompli, et maintenant, tout est accompli. Puis il baissa la tête et il rendit l'esprit. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf, où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Comme vous venez de le constater, j'ai fait le choix volontaire de ne pas prêcher directement sur l'un des textes des synoptiques se rapportant vraiment à Pâques. Car nous avons convenu avec Eric, parce que pour moi le culte forme un tout, nous avons convenu avec Eric de commencer le culte avec cette lecture, il est ressuscité, et avec ce tombeau vide. Et le signal fort de la résurrection s'est fait au tout début de notre célébration ce matin à travers l'image de la pierre roulée et le texte s'y rapportant. J'ai à cœur dans cette prédication, pour ma part, de souligner la portée de l'affirmation de Jésus, vraiment, vraiment, tout à la fin de sa vie. La portée de cette phrase courte, mais qui en dit long, « Tout est accompli ». Alors considérons des étapes importantes vers la croix et sur la croix. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville. Avec, j'en suis persuadé, mais alors vraiment, j'en suis convaincu, l'entière conviction d'avoir répondu à l'appel divin. Il est une victime innocente, mais comme il a choisi de répondre à cet appel, il est convaincu d'avoir été jusqu'au bout de son mandat. Le Christ Jésus est décidé, plus rien ne va l'arrêter. Sur le chemin qui le conduit vers la mort, il a dû faire face à toutes sortes de réactions. Il y avait les sympathisants, il y avait les moqueurs, il y avait ceux qui l'approuvaient, il y avait les contestataires. Les forces lui ont manqué, et on le voit dans cette image. Raison pour laquelle il sera épaulé par un sirène appelé Simon, qui n'aurait pas dû passer par là parce qu'il est très dérangé qu'on lui confie cette mission. Il vient d'Afrique du Nord, il vient pour la Pâque juive. Et on lui dit, toi maintenant, on a besoin de toi, tu vas porter cette croix avec ce prisonnier. Il est forcé de porter la croix, mais Jésus, lui, n'a pas été forcé de porter la croix. C'est toute la différence entre sirène et Jésus. L'un est forcé de porter la croix, l'autre a accepté de porter la croix. C'est vrai tant bien que mal sur le plan purement physique. Car les condamnés devaient porter leur croix jusqu'au lieu d'exécution. Affaibli par les coups reçus, Jésus est physiquement incapable de porter seul cette croix. Alors Jésus puise dans ses dernières ressources pour se rendre au lieu du crâne, car c'est le point culminant. C'est la mission principale à ne surtout pas rater. Il est venu sur terre pour cela. Ce rendez-vous est fondamental et capital. A-t-il repensé? Là, il est encore en train de sortir de la ville. Le lieu du crâne n'est pas très loin de la ville. Il est en route vers Golgotha. A-t-il repensé chemin faisant à sa prière tellement intime qu'il a adressée à son père peu de temps avant et que tu nous as envoyé, Sandrine, au groupe de l'après-midi, la prière sacerdotale? Il y a dans cette pièce, dans cette prière de Jésus, à la fois une immense satisfaction d'avoir accompli son mandat et une incroyable intercession en tant que témoin. Sa mission est terminée, mais il le dit déjà avant même d'être sur la croix. Il le dit au moment de ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Ça veut dire qu'il a accompli son sacerdoce. Il a été consacré. Il n'a pas rechigné un seul instant. Il s'est donné corps et âme. Et c'est pourquoi il pourra dire au commencement de cette prière dite sacerdotale, « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » C'est juste exceptionnel, parce que nos vies en témoignent. Souvent, quand on pense à notre parcours, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs, il y a eu des regrets, il y a eu des moments de bonheur. Jésus, lui, il dit « J'ai révélé ta gloire dans ce ministère. » J'ai terminé ce que tu m'as donné de faire. » Alors j'ai médité cette prière et je me suis dit, sans vouloir m'attarder, ça c'est le moment le plus délicat pour moi parce que je peux m'attarder et ce n'est pas le but. Mais ce que je veux montrer à travers la prière sacerdotale, c'est que Jésus, il a été là dans son ministère. Il est là et il sera là pour la suite. Jésus, c'est dans cette prière sacerdotale qu'il affirme, un peu avant la croix, qu'il a réussi l'examen. Jésus a réussi l'examen. Là où nous avons si souvent échoué dans notre vie de chrétien. Et j'ai regardé un peu des extraits. Jésus a levé les yeux au ciel et il va intercéder. Et il va dire, j'ai fait... Et là, il faut que je prenne que 3 minutes parce qu'autrement, je vais me disperser. Ce n'est pas ce que je veux. Mais écoutez juste ça. J'ai fait, il a réussi l'examen du tout est accompli au moment de cette prière. Et je la souligne maintenant. J'ai fait connaître ta grandeur et ta gloire. Il était le visionnaire. En menant à bonne fin la mission que tu m'as confiée, il était le missionnaire par excellence. J'ai montré qui tu étais aux hommes. Il était l'enseignant, à la fois théorique et tellement pratique, ça s'inscrivait dans les cœurs. Car je leur ai transmis le message, il était le formateur, le pédagogue. Bientôt je ne serai plus de ce monde, il est venu d'en haut, il est descendu et il va s'en retourner, il est l'envoyé. Père, maintiens-les attachés à ta personne, il est l'intercesseur. Je les ai gardés attachés à toi. Il est l'indicateur. J'ai veillé sur eux, je les ai protégés. Il est le bon berger. Fais qu'ils t'appartiennent entièrement, il intercède encore. Moi aussi, je les envoie. Il est celui qui appelle pour la suite. Je te demande qu'ils soient un, il est l'unificateur. Et enfin, je leur ai donné la gloire, ta gloire. Il est celui qui pourvoit le pourvoyeur. Et je termine ma liste, je vis en eux comme tu vis en moi, il est le vivant. Et voilà ce que Jésus a cherché à dire dans cette prière, à la fois dans une grande satisfaction intérieure d'avoir transmis ce que je viens de vous résumer en 2 minutes, et en même temps, il est l'intercesseur. Parce que Jésus, Jean 14, verset 6, est le chemin, la vérité et la vie. Non seulement il l'a dit, mais il l'a démontré. Jésus n'avait probablement plus la force de repasser dans son cœur tout cela sur le chemin le conduisant à la croix. Je l'ai dit vendredi dernier que les prisonniers étaient donc, on les fouettait avec un fouet avec trois lanières plus aussi du plomb, et pour les personnes très coupables, jusqu'à 40 coups permettait la loi juive. Certainement, on ne sait pas le chiffre exact, mais notre Seigneur a dû recevoir beaucoup de coups. Donc, il est chemin faisant. Depuis sa prière sacerdotale que je vous ai résumée, dans les jours suivants, il a certainement passé en revue ce qu'il a vécu sur cette terre, au milieu des hommes, des êtres humains. Et il en est convaincu, il accomplit avec une totale consécration cette mission. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, cette fameuse pancarte que l'on va mettre au-dessus de la croix, de sa croix. On pourrait peut-être dire, mais tu sais, Roland, c'est certainement par remords que Pilate va ordonner de mettre cette inscription. On sait qu'il tergiversait, Pilate. Des moments, il se laissait toucher. Et puis après, il était lâche comme tout. Mais je crois surtout que cette pancarte au-dessus de la croix, c'est la souveraineté de Dieu qui s'est exercée. C'est l'autorité de Dieu qui s'est exercée. Parce que Golgotha était tout près de la ville. Et on sait que la foule, une multitude de personnes passaient par là, imaginez, et ils ont vu cette pancarte, écrite en hébreu, en grec et en latin, « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Jésus de Nazareth, le roi de gloire. Jésus de Nazareth, l'époux de l'épouse que représente l'Église. » Jésus savait que tout était déjà accompli. Là, c'est un Jésus agonisant. Il lui reste quelques minutes, je n'en sais rien. On comprend bien à travers ce langage, Jésus savait que tout était déjà accompli, que c'était la constante du Seigneur de faire la volonté de son Père. Aller jusqu'au bout, ne pas contourner la croix, mener ce combat spirituel, car au bout, il y a la victoire de Pâques. C'est comme si pendant les heures qu'il a passées sur cette croix, il a en quelque sorte passé en revue son ministère, la conviction d'avoir été agréé par son Père. Vous allez dire, oui, mais Roland, il a aussi dit, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Et s'il l'a dit, c'est parce qu'à ce moment-là, il vivait cet abandon parce qu'il s'est fait juste, pas pécheur, péché pour nous. Et là, il vit l'abandon à ce moment-là. Mais juste après, il dira aussi, Père, Père, pourquoi tu m'abandonnes? Et juste après, et c'est les synoptiques qui nous l'apprennent, je remets mon esprit entre tes mains. J'attire votre regard que c'est vrai qu'il était fragile, mais je crois que dans ces heures de combat physique, on dit aussi qu'il a vécu le plus grand des combats spirituels, il a passé en revue son ministère et il avait encore les capacités, je crois, de réflexion. J'en ai pour preuve à ce moment-là, devant cette croix, quand il y a le disciple qu'il aime, on pense que c'est Jean, et la maman de Jésus. Et vous savez ce qu'il fait juste avant de mourir. Il dit à son disciple, tu peux désormais prendre chez toi ma maman, tu peux l'accueillir chez toi, comme on accueille le peuple ukrainien dans nos terres aujourd'hui. Jésus n'est pas en train de réussir l'examen. Quand c'est marqué, Jésus savait que tout était accompli. Il a déjà réussi l'examen. Il a déjà réussi sa mission et il en est convaincu. Il sait que plus rien ne pourra le détourner de la croix en vue du tombeau et ensuite de la résurrection. Jésus, juste avant de rendre l'esprit, s'écria, « Tout est accompli. » Alors pour moi, il y a une grande différence. Je me suis demandé pourquoi juste avant, Jésus savait que, et juste après, Jésus s'écria, « Tout est accompli. » Pourquoi ces deux phrases? Pourquoi cette précision en quelque sorte? Parce qu'il y a une grande différence entre le moment où il sait dans son fort intérieur, c'est ce qu'il habite, c'est ce qui fait la force de l'âme de Jésus, il sait que tout est accompli. C'est ce que veut nous révéler cette phrase juste avant. Et maintenant, quand il dit « tout est accompli », c'est plus pour lui, les amis. C'est pas pour se convaincre. C'est pas pour dire « ah, il faut que je m'encourage un petit coup ». Il le fait pas pour lui à ce moment-là. Il le fait pour ceux qui passent. Il le fait pour vous et moi ce matin. Il n'est pas en train de chercher à se convaincre, à se rassurer, à se dire « j'espère que je n'ai pas loupé l'examen ». Il est en train de dire « tout est accompli ». Et juste après, il va rendre l'esprit. C'est son témoignage à ce moment-là. Et je ne l'avais jamais compris comme ça. Il est en train de témoigner dans les dernières secondes de sa vie. Il témoigne encore de l'excellence du projet de Dieu pour nos vies à chacun. Par ces mots choisis, il parle de cette victoire spirituelle sur le monde de l'enfer. Et j'ai repensé à Matthieu 16, 18. « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Vous allez me dire, oui, mais tu étais quand même beaucoup, c'était intéressant, Roland, mais tu étais quand même beaucoup à Vendredi Saint ce matin. Alors, en ce dimanche de Pâques, pour éviter que vous me dites ça, que vous me disiez cela, réalisons-nous que Jésus n'a pas besoin de vivre la résurrection pour s'en convaincre? Vous êtes là? Jésus n'a pas besoin de vivre la résurrection pour s'en convaincre, lui. Nous, on aime bien vivre ces deux temps, puis on arrive à dimanche et puis on fait la fête. Jésus n'a pas besoin de se convaincre, d'attendre ces trois jours pour s'en persuader. Cela ne faisait aucun doute pour Jésus qu'il allait ressusciter le troisième jour. Il s'y était préparé, il l'avait annoncé avec une foi indéfectible à ses disciples. Il en était absolument convaincu. Alors sa résurrection a inauguré la nouvelle Pâque. On parlait de la Pessah, la Pâque juive, le rappel de la délivrance, de la sortie d'Israël. Aujourd'hui, nous fêtons notre libération. C'est pour la liberté de l'être humain dans son être intérieur que Christ nous a affranchis. Nous célébrons la victoire du Seigneur. Nous n'allons pas vers une victoire à Pâques. Nous partons de la victoire de Pâques. Alors, comment résonnons-nous ce matin « tout est accompli » ? Permettez-moi de vous partager ce qui m'est venu à l'esprit en y repensant. Le sacrifice de Jésus est tout suffisant. Les prophéties, vous avez vu rien que dans ma lecture, les prophéties s'accomplissent. Et c'est truffé d'allusions prophétiques qui s'accomplissent dans ces textes qui se rapportent à cette dernière étape de vie de Jésus. Les prophéties s'accomplissent. Le salut est accordé pour toutes les générations et pour tous les peuples de la terre. Pas seulement pour les Juifs, pas seulement pour fêter la Pessah. On commence par fêter la Pessah, mais ça devient la Pâque universelle. C'est plus seulement la Pâque juive, importante dans nos fondamentaux, mais ça devient la Pâque universelle. Le salut est accordé. Le péché, littéralement, ce qui me fait manquer la cible, est vaincu. L'ennemi spirituel n'a pas seulement perdu une bataille, il a perdu la guerre, l'ennemi spirituel. Le projet du Seigneur de bâtir son Église, l'ennemi qui voulait détruire l'Église, qui ne supporte pas qu'elle tienne depuis plus de 2000 ans contre vents et marées. Le projet du Seigneur de bâtir son Église s'est réalisé. Et ça se réalisera jusqu'au bout. Plus on persécute les chrétiens chinois, plus ils se développent, plus il y a un réveil spirituel. L'espérance est bien là, comme un solide ancrage pour notre vie sur terre et pour l'au-delà. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le tombeau est vide, Jésus est glorifié. Alors entendons-nous résonner à notre cœur ce matin. Ne le cherchez pas parmi les morts, mais cherchez-le parmi les vivants. Avec moi, ne le cherchez pas parmi les morts, mais cherchez-le parmi les vivants. Alors oui, comme le dit si bien un traité que j'ai retrouvé, un vieux traité, c'est mon préféré. Qui le connaît, le Christ incomparable?
vous allez aimer. Je lis. J'en ai fait quelques photocopies. Vous me les demanderez. Le Christ incomparable. Écoutez, ouvrez votre cœur, méditons cela. Ça conclut magistralement. Il n'a jamais écrit de livre. Cependant, aucune bibliothèque ne pourrait contenir tous les ouvrages dont il est le sujet. Il n'a jamais composé de musique. Pourtant, le nombre de mélodies dont il est le thème est tel que tous les compositeurs réunis n'en viendraient pas à bout. Il n'a d'avoir rien d'école. Pourtant, toutes les universités du monde ne pourront jamais se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais exercé la médecine. Mais qui donc pourrait dire le nombre de cœurs et de corps brisés par la souffrance, guéris par lui? Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié d'armes. Cependant, aucun chef n'a levé plus de volontaires. Combien de rebelles ont soumis leur volonté à la sienne, sans une parole de sommation de sa part, sans un geste de violence, par le seul pouvoir de sa douceur. Il a changé son vêtement royal par la tenue de l'humble artisan. Par amour pour nous, il s'est fait pauvre, et combien pauvre. Il a dormi dans la crèche d'un autre, il a traversé le lac de Génézareth dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée à Jérusalem sur l'âne d'un autre. Il a été enseveli dans la tombe d'un autre. De grands hommes ont paru et sont tombés dans l'oubli. Lui seul ne passe pas. Hérode n'a pu le tuer, ni Satan le faire échouer. La mort n'a même pas pu le détruire, ni le tombeau le retenir. Il est le Christ incomparable, l'admirable, annoncé par les prophètes dès les temps anciens. Il est le grand miracle de l'histoire de la race humaine. Sur son visage d'homme rayonne la gloire éternelle du Dieu très haut. Sur la croix des esclaves et des criminels, il est mort pour vous, comme pour moi, d'une mort horrible et pleine d'angoisse, écrasé sous le poids affreux de notre péché. La mort, cependant, n'a pu le retenir. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. Edmond Gérard, pasteur. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Je l'ai à votre disposition. Alors je conclue et je vous invite à fermer peut-être vos yeux et à recevoir ce mot conclusif. Oui, ce matin, tout est accompli. Il est ressuscité. Il combat mon incrédulité, qui est des fois bien tenace au-dedans. Par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que nous vivons, Dieu, comme nous l'avons vu au début de ce culte, a roulé la pierre. Il n'y a plus d'enfermement. Là où tu te sens enfermé, il roule la pierre. Jésus a totalement réussi l'examen. Et sa prière sacerdotale nous en témoigne. Là où nous, nous sommes peut-être en difficulté, voire en échec, Jésus intercède pour nous à la droite de Dieu. Il connaît ce dont j'ai besoin, ce dont tu as besoin ce matin. Jésus savait l'issue du combat, car il sait tout de nous. Il savait que tout est accompli. Il sait toutes choses sur ta vie. Il prononce en ce moment à ton oreille, tout est accompli. Là où tu te sens plutôt vaincu, fais confiance à la victoire du Seigneur. Rappelle-toi que tu es un suiveur du Christ, l'incomparable, l'admirable. Alors, merci Seigneur pour la puissance de la résurrection pour l'après. Car les disciples qui étaient si fragiles, si enclin au doute, qui se comparaient, qui ont renié, qui ont été cabossés dans leur ministère avant la résurrection, ils seront transformés après. Et c'est l'esprit de résurrection qui va complètement les habiter pour leur mission, qui sera une mission extrêmement fructueuse. Que l'esprit de résurrection équipe chacun, chacune d'entre nous ce matin. Amen.